R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la Maison des Fougères. Merci d'être venus si nombreux pour cette soirée qui a lieu dans le cadre du festival Relecture organisé par Kiasma. Je voulais juste vous présenter en quelques mots rapidement la Maison des Fougères. C'est un petit lieu de quartier qui a été créé il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Kiasma fait partie des fondateurs avec d'autres associations de ce quartier. Et donc c'est un endroit familial où il se passe tout un tas d'activités. Allant de soirées comme celle-ci à des repas partagés, en passant par des projections familiales, des ateliers artistiques et tout un tas d'autres choses. N'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette rencontre pour en discuter avec moi. Il y a des programmes qui se trouvent sur la table. Et vous pouvez aussi trouver le programme de relecture qui continue. Voilà. Et je passe la parole à Olivier.
Merci Delphine et merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Donc c'est la deuxième semaine du festival Relecture qui commence ce soir à Maison des Fougères. C'est un plaisir pour nous de présenter ici la conférence de Vincent Piollet sur les origines du hip-hop français. Alors le festival Relecture, c'est un festival à la fois de littérature, de conférences, de performances, en tout cas tout un festival autour de la question de la voix. Et on avait envie de parler aussi des usages de la voix dans les pratiques artistiques. Et ce soir, ce sera plutôt autour du hip-hop. Pour les gens qui veulent nous suivre, et j'espère que vous serez nombreux, la soirée se poursuit après la conférence de Vincent autour de 21h, 21h30 à l'espace Kiasma, c'est-à-dire à 5 minutes d'ici. Alors, il faut quand même passer sur le périphérique et rentrer en Seine-Saint-Denis. Pour les moins assurés, on vous accompagnera. Et pour continuer donc avec Jamika Adjalon qui va nous proposer aussi une performance qui est autour aussi de ses pratiques de la voix et de l'image et de la culture noire américaine, parce qu'elle est américaine, qui est une autre extension ou alors une manière de revenir en fait sur des histoires de la culture urbaine, la voix, du corps que va évoquer Vincent. Je voulais remercier Vincent ce soir d'être parmi nous. C'est donc un festival où on est pour partir à Kiasma et puis souvent en dehors dans des lieux alliés ou alors carrément à l'extérieur. Donc c'est aussi un plaisir de pouvoir accueillir cette conférence. C'est aussi l'idée de le faire aux Fougères pour faire un lien entre les pratiques qui sont quand même assez importantes ici, puisqu'on n'est pas très loin de l'espace jeune où il y a des studios, où il y a des jeunes artistes qui enregistrent des sons, qui chantent. Donc c'était aussi l'idée de trouver avec cette conférence le point de jonction entre notre intérêt pour la parole et les pratiques aussi qui sont répandues sur le quartier. Voilà. Vincent, c'est à vous.
Merci. Merci de m'accueillir. Donc, je suis Vincent Piollet. J'ai pas mal travaillé sur... j'ai déjà beaucoup écouté du hip-hop pendant toute mon adolescence et même maintenant mon âge adulte, même si j'ai agrandi un peu mon spectre de goûts musicaux. Et je me suis concentré pendant plusieurs années sur la naissance du hip-hop français. Notamment suite à certaines rencontres que j'ai faites de certains pionniers comme DJ Chabin par exemple où il y avait pas mal d'histoires, pas mal de gens qui passaient chez lui et qui racontaient des histoires et je me suis rendu compte que personne n'avait vraiment raconté cette histoire de 80 à 90, donc la période où le hip-hop français est vraiment une contre-culture. Je vais vous le montrer par la suite. La contre-culture, je le définis comme où il n'y a pas d'argent, pas de médias et pas d'institutions. Mais il va y avoir des petites parenthèses enchantées comme que je vous montrerai. Donc déjà, ce qui se passe, juste pour un petit rappel, parce que bon, le hip-hop, ça vient donc des États-Unis. Et ce qui s'est passé, quelqu'un l'a pris en pleine face sans s'en rendre compte. C'est donc notamment Neil Rogers, que vous avez pu revoir. Il a fait un morceau avec les Daft Punk il y a 2-3 ans. Neil Rogers, le meneur de Chic, si je retrouve ma souris, où es-tu ? Souris, tu es là, c'est bon. Donc, lui, il avait l'habitude de jouer ça. Voilà. Alors, le morceau, il est long, donc je vais pas tout vous faire écouter, mais... Hein, un moment précis. Et voilà Neil Rogers avec sa basse. Donc là, il est content, il joue. Et un jour,
il va dans un club, il est à New York, il ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, il ne l'entend pas, ça. Et il est encore dehors, il va bientôt rentrer dans le club. Et il entend ça. Il dit, ah, c'est mon titre, c'est ma musique qui est en train de passer. Sauf que comme vous connaissez donc Rapper's Delight, je ne vais peut-être pas tout vous mettre, il dure 8 minutes. Pardon ? Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas de sampler. Hein. Donc ils ont tout rejoué, la base, tous les instruments, ils ont tout refait. Donc c'est le premier morceau de rap qui envahit la planète. Parce que... Parce que, alors à l'époque, le hip-hop, il est surtout joué dans des blocs parties animés par Kool Herc, par Bambata et par Grandmaster Flash, qui c'est un peu la cartographie de New York, qui se partage les quartiers. Mais personne en pense à faire un disque, sauf Rapper's Delight qui a pensé à faire un morceau, à sortir un disque et à prendre, enfin pas à sampler, parce qu'il n'y avait pas de sampler, donc à rejouer chic et à rapper dessus. Et donc c'est un morceau qui a eu un gros succès mondial, mais qui n'a pas fini numéro 1 des charts. Le premier morceau hip-hop rappé qui finit numéro 1 des charts, c'est bizarrement un groupe de New Wave, notamment Blondie, avec le morceau Raptures. Et donc si vous regardez le clip, on retrouve Fab Five Freddy qui est un rappeur, on retrouve Basquiat qui graffe, on retrouve pas mal de rappeurs. Et ce qui est intéressant, c'est quand elle va se mettre. Il a fallu écouter parce que elle dit François, c'est pas Flash et nous deux. Donc on a ce morceau-là fini numéro 1 des charts aux États-Unis. Donc c'est le premier morceau de hip-hop, on pourrait dire, qui finit numéro 1. Les premiers lyrics déclamés en français également, c'est Blondie, donc qui fait François, c'est pas Flash et nous deux. Flash et nous deux, c'était des magazines un peu romantiques, un peu à l'eau de rose. Et François, c'était considéré comme un... À l'époque, c'était un journal très sérieux. Donc c'est voilà un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que pour que le hip-hop marche, il faut que les... Enfin, pour qu'il ait marché, il fallait que les branchés se l'accaparent aussi. Et Blondie est un bon exemple parce qu'elle a fréquenté les block parties, elle l'a repris, elle a mis des gens... du Bronx dans ses clips. Et donc on a eu le Uptown qui est descendu sur Downtown, sur Manhattan, et je vous montrerai après, il y a eu des clubs comme le Roxy's, etc. Je vous montrerai après, il y a une émulation qui se fait, et c'est comme ça que le rap sort uniquement du Bronx pour aller un petit peu partout. Mais pour toujours rester aux États-Unis, il y a le premier morceau de hip-hop réalisé par un Français que j'ai retrouvé. C'était assez dur, c'était la première fois qu'il racontait son histoire. C'est Alexandre Jordanov qui est journaliste, mais à l'époque c'était super edgy. Il part à l'âge de 16 ans, il avait déjà eu son bac, il part à l'âge de 16 ans, il veut partir le plus loin possible de ses parents, il va à Los Angeles. Et tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Il écoute, il va sur Crenshaw Boulevard, il arrive chez un disquaire, il voit des disques de hip-hop, il commence à y en avoir un petit peu. Et il retourne la pochette de l'un d'entre eux, il y a un numéro de téléphone, il se dit « je veux connaître ce mouvement ». Il appelle et c'est Ice-T qui décroche. Et donc avec Ice-T, ils deviennent amis et ils montent un club qui s'appelle The Radio, où donc Ice-T fait le rôle de MC. Et en rôle de DJ, parfois il y a donc Super AJ et parfois c'est The Glove. Donc il y a un Français qui a été à l'origine aussi du hip-hop au niveau West Coast.
au niveau de Los Angeles. Et donc, il a sorti ce titre-là. Donc, à l'époque, le hip-hop est aussi une musique électronique. Hein. Il n'y a pas de paroles, par contre. Donc, c'est très plutôt pour les breakers. Un peu agressif, hein. ça casse un peu les oreilles. C'était le tout début. Il l'a fait en une nuit, hein, le morceau. Donc, il l'a fait dans le garage d'un certain André, hein, qui deviendra plus tard Dr. Dre, qui était ami avec Ice-T. Donc, cette histoire-là est une belle histoire, même si elle se finit mal parce qu'elle se finit en prison pour lui. Il est allé aider son ami Ice-T qui était en train de. C'était un voleur, Ice-T surtout. Et il est allé voler dans une bijouterie un soir. Il allait le rechercher en voiture et il s'est fait choper avec lui. Et donc il finit en prison et son club n'en survit pas. C'est une histoire qui finit mal, mais il a très 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 bons souvenirs, même si pas de son passage en prison où il se faisait démonter comme il me disait assez souvent. Mais de cette expérience à The Radio, il en a un très bon souvenir. Et donc voilà, donc il y a un autre Français qu'on va voir. Donc là, on retourne sur New York. Donc je vous disais qu'il fallait que les branchés se mélangent au b-boy du Bronx. Et donc on a la sortie du film Wild Style, qui est considéré à l'époque comme un très bon film et qui l'est effectivement. Qui a eu une diffusion assez discrète. Et donc, tous les gens se retrouvent au Roxy, à Manhattan, notamment Afrika Bambaataa, qui fait ses shows. Et donc là, il y a un mélange qui se fait et qui permet donc cette émulation de faire connaître le hip-hop. Et cet autre Frenchie, c'est Bernard Zécri. Alors, Bernard Zécri, peut-être que vous le connaissez, il était rédacteur chef des Un Rock, il a été sur iTélé, il travaille sur Canal+. Lui, pareil, pendant sa jeunesse, il voulait être journaliste et il est parti très tôt. Et sauf qu'au lieu de. Il était journaliste, mais en plus de ça, il a produit certains morceaux qui ont été assez mythiques, donc notamment le morceau de Time Zone, le morceau Wild Style. Je vais faire écouter un extrait. Donc ce morceau-là a été surtout utilisé par les breakers aussi. Il n'y a pas de paroles, c'est que électro. Là, on est au niveau des boîtes à rythme, mais il n'y a toujours pas de sampleur. On est sur un travail avec des boîtes à rythme. Et surtout, il était. Voilà. Oula. Et surtout, il a été connu pour ce morceau-là. S'il y a des DJ dans la salle, ils vont comprendre pourquoi. Donc, c'est le morceau Change the Beat. Avec B-Side qui était sa femme, et Papa et Freddy. Five Freddy, c'est une grande figure du hip-hop new-yorkais. Hein. Il rappe, il anime, il graffe. Et... Tout le monde le connaît. Il passe tous les murs de New York City. Oh. Ça fait même temps, c'est une période. Alors pourquoi je vous parlais s'il y avait des DJ dans la salle ?
Alors ce petit Fresh, voilà, que vous avez écouté, donc on le retrouve sur tous les disques de cut pour les DJ. Il a été samplé énormément de fois. Je le mets dans mon bouquin. J'ai répertorié le nombre de morceaux qui le samplent. Il y en a à peu près une centaine qui semblent juste Fresh parce qu'il savait pas comment finir le morceau. Bernard Zécry, donc il a demandé à Fab et Freddy de dire n'importe quoi ou quelque chose qui lui est passé par la tête pour finir le morceau. Donc il a dit Ah, this stuff is really fresh. Et sans savoir qu'après, ça allait être repris par tous les disques de cut pour les DJ. Et donc Bernard Zécry décide de ramener le hip-hop, mais le ramener littéralement. Il prend des rappeurs, des danseurs, des graffeurs. Il ramène même un groupe de double dutch. C'est les cordes à sauter que font les filles, où c'est assez athlétique. Et donc, il ramène ça. Donc, c'est un projet. Il ramène ça avec Bambata. Il l'amène à Paris. Il l'amènera aussi à Belfort, à Strasbourg, à Londres, à Los Angeles. Mais en fait, ça marche pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que les gens, on est en 82, comprennent pas pourquoi est-ce que des personnes arrêtent des disques, pourquoi il y en a qui dansent sur la tête. Donc beaucoup se posent des questions et ce qu'ils me disaient, c'est que autant à Belfort ou à Strasbourg, les gens se posaient des questions, mais à Londres aussi, c'est pas une histoire de... C'est que c'était... Déjà, à Manhattan, c'était un peu des ovnis, alors en Europe, c'était encore plus perçu comme des ovnis. Donc c'est en 82, ils ont tenté de mettre le hip-hop. Et ils en ont profité, donc Bernard Zécry, pour sortir des disques. Il avait un parrainage avec la Fnac, et donc il a sorti Grandmaster DST, qui est maintenant Grandmaster DXT. Il a sorti le Fab Five Freddy que vous avez écouté, le Phase 2, le Smurf for What It's Worth et le Futura 2000. Alors le Smurf for What It's Worth, c'est ce qui viendra après la mode Smurf en France, dont je vous parlerai. Quand on retourne les pochettes, c'est très joli parce que c'est un grave une peinture de Futura 2000 qui a rappé aussi, alors que bon, c'est un graffeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Parce que je parle là, je ne vois pas très bien, il fait avec la lumière. Alors en France, voilà ce qu'on entend en Angleterre. Ça les flash. Donc 7 AM, donc il y en a un qui s'est dit en France, moi je vais faire pareil, mais en beaucoup moins bien.
5h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne...
Alors, contrairement à ce que la personne qui a fait le disque, que ça n'est pas le premier disque de rap français, comme déjà il y en avait plein, donc 2-3 ans avant, qui ont essayé de faire un peu de rap, mais c'est le premier morceau rappé qui a du succès. Mais ça n'a aucune culture hip-hop, hein, c'est rappé comme c'est un gimmick, quoi, c'est un gadget, il rappe. Donc on a 5 heures du mat, j'ai des frissons, et donc il le dit, hein, qu'il a pris le truc des morceaux des Clash et il en a refait la même chose en français, donc un peu différent. Alors après, il y a Sidney, donc, qui est animateur à l'Emeraude, qui lui est un vinyle addict, comme on pourrait dire. Et donc tout de suite, il est intéressé par cette musique électronique, ce funk qu'on n'appelle pas encore rap ou hip-hop, cette musique électronique. Et donc il en diffuse assez souvent à l'Emeraude. L'Emeraude, c'est un club rue des Petites Écuries dans Paris. Et son club a beaucoup de succès et il est fréquenté notamment par Clémentine Sélarié qui avait une émission sur Radio 7
et qui lui dit bah, écoute, ta musique est bien, viens la passer sur Radio 7. Et à partir de ce moment-là, sur Radio 7, il passe que du hip-hop américain. Et ça deviendra une référence parce qu'il va arriver à recevoir Bambata, il va recevoir Futura 2000, Fab Five Freddy. Il aura toujours tous les disques parce qu'il sera à Radio France. Donc, il aura à la maison de la radio, il y a une sonothèque gigantesque. Ils achètent énormément de disques. Donc, pour lui, comme il me disait, c'était un trésor. Il avait accès à énormément de disques, à beaucoup de moyens. Donc, il a pu faire son émission. Et après, il commence à s'organiser des lieux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en France, le hip-hop, on pourrait croire que ça vient de la banlieue, par exemple, alors que ça vient, c'est du Paris intramuros pur, c'est-à-dire que si on veut vivre le hip-hop, il faut se bouger et aller dans Paris. Pour les breakers, par exemple, il faut aller au Trocadéro, il faut aller dans différents lieux, il faut aller au Bataclan, donc voir DJ Chamin. Et parce qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas encore MTV, il n'y a pas de vidéo, on ne peut pas vivre cette pratique chez soi. Donc tous ceux que j'ai pu voir m'ont dit où ils montaient, où ils descendaient sur Paris, dans certains lieux. Il y a eu le duplex aussi, mais surtout le mythique Bata donc de DJ Chamin, qui continue d'ailleurs une fois par mois au Bizarre. Ok. Alors, il passait notamment Tyrone Branson, The Smurf. Oula, attention, celui-là, c'est la surprise. Encore très électronique et qui vont rompre un peu avec cette façon électronique et qui vont faire en double voix, donc vous allez reconnaître tout de suite. Non, pas toi. Run-DMC. Donc voilà ce qui passe au Bataclan, mais c'est pas si simple. Years ago, a friend of mine asked me to say some MC rhyme. So I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way. Took a test to become an MC, and Orange Crunch became amazed at me. So Larry put me inside the scat to lack. The show drove off and we never came back. Dave cut the record down to the bone, and now they got me rocking on the microphone. And then we're talking autographs and tears and laughs, champagne, caviar, and bubble bath. That's the life that I lead. And you sucker MC, it's who I be. So take that and move back. Catch a heart attack, because there's nothing in the world that run the level like a cold chill at a party in the B-boy stand and rap on the. Et après. Alors, je vous ai dit, c'était pas gagné parce qu'en fait, avant de mettre des disques hip-hop au Bata, c'était surtout du jazz-rock. Et petit à petit, les jazz-rockers se sont fait mettre de côté par les plus jeunes qui, eux, arrivaient avec le Kawe, avec les baskets Adidas, et ils se mettaient à breaker. Et donc, ils ont mis petit à petit sur le côté tous les jazz-rockers qui dansaient sur de l'électro-funk. Et j'aimerais vous faire écouter aussi le morceau de Tila Rock avec Jazzy J. C'est ce qui passait donc. Commentating, illustrating, description giving, adjective expert, analyzing some of the musical myths, seeking people of the universe. This is yours. Donc voilà ce qui passait à l'époque. Surtout du hip-hop américain, parce qu'il n'y a pas encore de hip-hop français, mais à chaque fois, il laissait à peu près un quart d'heure, 20 minutes, une session open mic pour que des gens viennent rapper. Et donc, il venait rapper, mais c'était à l'époque, il rappait encore en anglais, parce que ça servait... Enfin, rapper en français, ça paraissait bizarre. Donc, les gens qui allaient au micro, ils rappaient en anglais, surtout en yaourt, parce qu'ils maîtrisaient pas très bien l'anglais. Donc, c'était de leur aveu même. Hein, ils m'ont dit que c'était souvent en yaourt et ils répétaient les rappeurs Delight. Et même Sydney, hein, quand il se met à rapper. Alors, voilà l'improbable précurseur à la grande crinière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Phil Barney a un vécu assez particulier. C'est qu'il a animé une émission sur Radio Carbon 14 qui était consacrée au hip-hop et à la funk. Et il était le premier à rapper sur ses jingles. Donc il laissait passer les morceaux instrumentaux et il se mettait à rapper. Et beaucoup, dont Dynasty notamment, ont vu que des gens rappaient en français, mais ça devait être le premier à rapper en français. Donc je l'ai vu d'ailleurs, notre ami Phil Barney, et ça lui plaisait beaucoup, sauf que il a rappé un petit peu avec des groupes, les Destinies, avec des groupes de jeunes filles où ils faisaient une intro en rap. Mais disons que après il a fait un chagrin d'amour et donc son agent lui a dit tu fais que des chansons comme ça et t'arrêtes tes choses, ton hip-hop, tu le remets donc tu le remises dans ton placard. Donc c'était quelqu'un qui travaillait à mini club de nuit, donc un disquaire. Donc la journée il travaillait, il était disquaire. Il travaillait beaucoup avec les DJ, il les fournissait en vinyle. Et le soir, bah, il allait animer son émission sur Carbon 14. Donc là, on est en 81-82. On a encore Carbon 14 qui émet après en radio pirate. Et donc, c'était quelqu'un d'important pour beaucoup de gens pour savoir qu'on pouvait rapper en français et non plus en yaourt. Alors après, il y a aussi un important... donc le même phénomène s'est passé en France, c'est-à-dire que les branchés ont commencé aussi à s'approprier le hip-hop, et notamment Radio Nova qui crée un propre label, Nova Scratch, et qui sort quelques morceaux, quelques vinyles. Il y en a un de Dynasty, il y a Shango, en fait c'est Africa Bambaataa, mais pour des raisons de droit, il ne pouvait pas mettre son nom. Ils sortent comme ça quelques vinyles et il y a des BD aussi qui illustrent un peu l'ambiance de cette époque où le hip-hop est donc à la mode. Mais il est à la mode aussi par les médias qui se rendent compte qu'il y a quelque chose à récupérer. Donc c'est ce que j'appelle le hip-hop de cours de récréation, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai vécu quand j'étais... Enfin non, j'étais à la maternelle, donc un peu trop jeune. Mais c'était donc Sydney qui fait le Sydney. Et donc pas mal de disques où destinés aux enfants pour des marques de kawé. Il y avait même des marques d'alcool, des marques de cigarettes. Tout le monde avait son petit morceau de Smurf. Donc ça, c'est 84. Donc on retrouve donc le Téléchat, il y a Isidore Clément, tout le monde se met à rapper, même Gérard Jugnot, il rappe. Donc il y a le rap des gloutons aussi, c'était Téléachat. Des gluons, voilà, c'est ça. Le rap des gluons. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'une culture ne pouvait pas naître uniquement d'une chanson du rap des gluons ou de Sydney qui cabotine sur TF1. Donc à un moment, il y a la vague du Smurf pour les enfants, le hip-hop de cours de récréation, la vague, elle tombe, la mode, elle tombe, on passe à autre chose. Sauf qu'il y en a plusieurs qui ont suivi depuis même le New York City Rap Tour, depuis 82, et qui suivent avec beaucoup d'attention ce mouvement, et pour eux, ils ne veulent pas le laisser. Et donc, ils se retrouvent notamment au terrain vague de la Chapelle. Donc là, à l'époque, on est vraiment, c'est là où naît la contre-culture. Donc, parce que c'est des gens qui se réapproprient déjà le territoire et qui se réapproprient aussi le hip-hop français. Donc il y a Dynasty, par exemple, là, qui avait posé ses platines sur un frigo. Et on a de Johnny Go et Destroyman, c'est les premiers rappeurs français. Et Dynasty, qui avait pas mal voyagé et qui avait aussi fait pas mal d'émissions de radio, glissait dans les vinyles des petits flyers faits à la main comme ça. Il appelait ça des free jams. Une fois par semaine, au terrain vague de la Chapelle, il passait du son où il y avait les meilleurs graffeurs comme Bando, comme J1. Mode 2, enfin, qui ont décoré les murs du terrain vague de la Chapelle, parce que dans le hip-hop, j'ai étudié principalement la danse, le rap et le graph. Et donc, dans Spreken Art, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez un panorama de plusieurs villes dans le monde. Quand vous voyez le Danemark ou l'Australie, c'est vrai, c'est assez laid. Par contre, quand vous regardez Paris, c'est les seuls à rivaliser avec New York. Donc déjà, au niveau du graphe, il y a une maturité qui est assez importante. Donc là, c'est fini le Smurf et le hip-hop pour les enfants. Donc là, on a le premier disque qui sort, c'est Dynasty, donc le premier disque de rap hip-hop français. Donc on a Dynasty qui rappait un moment avant de ne plus jamais... Il a tout fait de toute façon. Il est raté. Donc en autoproduction, il a fait ce disque. Après, donc il y a donc Johnny Go et Destroyman que je vous montrais qui traînaient au terrain vague de la Chapelle, à côté de la salle Paco Rabanne qui était une salle où beaucoup de breakers s'entraînaient, où Paco Rabanne les laissait gratuitement et gentiment s'entraîner. Et donc il y a ces deux rappeurs qui étaient habitués des différents lieux, que ce soit le Bataclan, le Globo, le Duplex. Et ils sortent c'est le premier disque signé sur une major, donc Barclay. Chez Barclay, et donc ils sortent ce disque qui est un maxi. Il devait y avoir un album, mais disons qu'ils ne sont pas très bien entendus, ça s'est un peu tapé dessus avec la maison de disques, et ils n'ont pas réussi à sortir l'album comme ça devait l'être. Et après, donc, commence un petit peu à évoluer différents styles, notamment du rap conscient, comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire que essentiellement, Johnny Go Destroyman, c'est un peu Run DMC. Ils rappent chacun leur tour, et c'est beaucoup d'ego trip. On ne sait toujours pas où mettre le rap, donc cette compilation, c'est une compilation de raga. Et on a pour la première fois quelqu'un qui raconte un peu ses problèmes, donc ça a une tournure un peu consciente, donc c'est EJM.
Nous vivons tous. Nous vivons tous. Nous vivons tous dans une ère de violence, où la police maintenant ne te laisse aucune chance. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau, quand les flics sont arrivés criant debout bande de négros. À peine avoir vu le jour, j'avais des menottes dans le dos. Ils poussaient et rigolaient, me regardant de bas en haut. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé, l'un d'entre eux a crié oh. Puis tu joues trop les Mario, tu finiras dans un cachot. Je disais je ne comprends pas et j'atterris chez les fachos. Arrivé oh, commissariat, on traitait déjà de salaud. Oh, oh, nous vivons tous dans une ère de violence.
Voilà. Donc ça c'est EJM, donc de Vitry, où on a vraiment un premier morceau qui est avec un peu de storytelling, quoi, avec une expérience qui lui est arrivée en vacances en Vendée, donc où il s'est fait ils n'avaient pas l'habitude de voir des jeunes noirs de banlieue parisienne en vacances, donc ils se sont fait embarquer sans raison, et donc il en a fait une chanson.
Et après, donc, il y a les fameux concerts fondateurs où, comme je vous disais, il faut monter sur Paris pour connaître le hip-hop. Il ne faut pas rester dans sa banlieue. Enfin, à partir de 90, on pourra rester dans sa banlieue parce qu'il y aura les cassettes, MTV, enfin... Mais là, on est obligé d'aller, notamment le concert des Ultramagnetic MCs, ça a été fait par du crew IZB, les IZB qu'on retrouve là, qui font venir aussi KRS-One. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour faire venir les Ultramagnetic MCs, ils n'avaient même pas de bureau, ils allaient dans une cabine téléphonique, ils appelaient les agents des personnes, ils les faisaient venir. Et Angelo, un des membres des IZB, bah maintenant, il est devenu tourneur de Rihanna, entre autres. Donc, il a pas mal réussi. Mais depuis la cabine téléphonique Richelieu-Drouot, où ils appelaient. Et ils distribuaient différents flyers. Et ils ont fait aussi venir Public Enemy, où à l'époque, toute la presse s'était émue parce que la presse les prenait pour un groupe raciste, antisémite. Alors qu'il y a toute une histoire autour de Public Enemy, c'est pas si simple. Et le fameux concert Rap à Paris, dont j'ai retrouvé un flyer, c'est là où pratiquement de la première scène de très nombreux groupes. Vous voyez écrit en petit, il y a Assassin, il y a le Supreme NTM, c'est leur première scène au Supreme NTM. Il y a les New Generation MCs, il y a les MIC, enfin il y a tous les premiers groupes, et c'était la coupe des DJ de Paris produite par Nova. Et il y a aussi les premières mixtapes. Donc, la première mixtape a été faite par DJ Clyde, donc, avec un graphe pour le représenter. Mais surtout, celui qui a révolutionné le marché des mixtapes, c'est Cut Killer. Qui est un vrai, on peut le dire, qui est vraiment un génie des platines, parce que, pour vous donner une échelle, il a eu sa première platine, c'était en 88, ça devait être en octobre 88, il a sa première platine, en décembre 88, donc 2 mois après, il a sa deuxième, et en mars 89, il fait les DMC, les championnats de France de DJ, où il finit deuxième ou troisième. Tout ça donc avec même pas 6 mois de pratique, donc c'était quelqu'un de très doué sur les platines. Et donc là, on est aussi sur un support différent, donc en dehors des réseaux de distribution habituels. Là, la musique, il venait, comme il disait, moi j'ai des copains qui vendent des barrettes pour se faire de l'argent, ben, moi je vends mes cassettes, il s'est fait beau, il me disait qu'il s'était fait beaucoup d'argent. Ça marchait très bien. Alors après, il n'y a pas que à Paris que ça se passe. Il y a aussi un peu dans le sud où on a donc la cassette Concept qui sort en 90. Mais juste avant 90, il y a un morceau que vous allez reconnaître. Attention. Le premier featuring français sur un morceau américain.
It's the funky B-side cut. We gonna get flam. Niggas gonna kick the flavor. We gonna have a little Poly Roux Francais shit at the end. Word, choice and essence and effect. Kick it.
Yeah, real smooth. I'm a phenomenon. Once in a lifetime. Guess God said it was the right time for me to rock the MIC. Gave me the chance to see who I'll be. Sure, I'll send a song of sixpence with a pocket full of rhymes that make sense. Sit back, relax, up. Just as long as my man keeps the beat up, I will go on, rhymes will flow on, then I'll stop, etc. and so on. You'll try to diss, take a crack at this, not algebra or calculus, you're a neutron, you saw this, try to protest this, so don't try to play me out like I'm a new jack, you wanna do this, cause we can do that, I'm vicious as a viper, always getting hyper, treat you like a butt cheek, and just wipe you out, yeah, we gonna do some shit ain't nobody did before. Straight out of France, my man, chill, Phil.
J'ai fait une offre pour les brothers, ne sachant pas le réveil sera dur, mais c'est 88, alors fais là, un chrono,
Vous savez quelle heure il est maintenant sur le micro. Car le succès pour mon groupe se profile. Succès évolué par mon poids si en ville. La lente amie, la vie, la danse qui obéit à ce que je produis, mon hip-hop régime. Marseille, et c'est le vrai deal. Tu danses et wap sur les mots du frère Chillfield. Entièrement ce jam est garanti. Funky et la rime, funky sans les mots, le beat est funky. Au possible pour le son qui tanky a des airs de Bronx dans Boogie. C'est identique mais ça vient de la Méditerranée. Foncé et non de Paris. Le rythme est radicalement beau, musicalement chaud. Automatiquement doublé de nos voix sur le micro. Je ne suis pas le genre de mec qui ment trop. Alors je dis peace pour ce morceau. Yo Choice, this is the B-side.
Yo Phil man, that was good for moi, you know. All that voulez-vous, pourquoi and all that type shit. And now I got the urge for the surge. Surge is trying to merge. And as I say, urge de toi.
Once again, it's up to me to show I'm the best in NYC.
Alors je peux vous dire que ce morceau-là de Choice MCs avec Akhenaton en featuring, ça disons que beaucoup à Paris pensaient être à la page et être les meilleurs MC, mais quand ils ont entendu ça, ça leur a mis une claque en 88. Il y avait donc des gens à Marseille qui étaient donc beaucoup plus avancés, surtout que le 90, ils sortent la cassette, ils utilisent des sampleurs, ils arrêtent les boîtes à rythme. Toute cette histoire-là, d'ailleurs, fera que des Parisiens descendront à Marseille pour voir le groupe Akhenaton. Ils croyaient que c'était un groupe, alors que c'était juste une personne. Notamment Joystar, qui descend pour récupérer la cassette et qui, après, l'a fait tourner sur Nova, notamment. Et un moment encore important, je vous disais que Dynasty, il a tout fait. Enfin, entre DJing, rap, là, il fait une émission de radio qui s'appelle le Dynastyle. Et donc, toutes les semaines, tout le monde se bat pour passer à la radio à son émission parce que c'est écouté par tout le monde. Et si vous y passez, c'est qu'en gros, vous êtes quelqu'un, sinon c'est pas la peine. Et donc, ça, pendant un an, après, ça a mal fini. Parce que les studios ont été dégradés suite à un groupe qui n'était pas content. Parce que Dynasty avait fait une blague au micro et donc il l'avait mal pris, ils ont tout retourné. Et donc son émission s'est arrêtée au bout d'un an. Mais en attendant, il y a eu beaucoup de gens comme le Posse 501 avec Striker D que personne ne connaît plus du tout. Et Sunny MC. Bon, il y a cela. Ah non, c'est pas ça. Donc là, c'est la période des freestyles.
Allez, James, ils viennent tous de Villeneuve, des cités, Cellier, cité Toi et Joie, cité Les Graviers.
Salut, la zone d'attaque. Tout le monde croyait qu'il était mort et là, il a réapparu, je ne sais pas si vous savez. Il fait une interview,
que tu es prêt?
Alors que tout le monde l'avait enterré.
On t'entend pas assez.
Il est pas mort.
Solar, on le microphone.
Ok, c'est comme vous voulez.
Mon délire est total et ce rythme infernal, quelque chose que tu ne retrouveras plus jamais dans les annales. Il faut me comprendre et ne jamais prétendre que Claude MC est un dur car ce gars est un tank. Mais je déteste les suckers, les galériens, ceux qui jouent les tueurs, les hippopiens. Je me dis ces gens-là doivent être traités comme des chiens et qu'un tel traitement Wheeler ira très bien. Du style assis, debout, couché, donne la patte.
Si c'est de résister, oui mais leur une grande plaque. Tel est mon délire.
Il n'est pas banal, j'espère qu'il restera pour très longtemps dans les annales.
C'est le début, hein.
Car je suis Claude Tchernobyl, version positive. Une centrale à rimes qui sont un peu radioactives. Elle se propage sur les ondes de Paris jusqu'à Brive. Et pourquoi pas dans les futurs jusqu'à Tananarive. Oui, Claude MC, tel est mon nom. Solar et Montague, il aura du renom. Claude MC, tel est mon nom.
Bon. Si vous avez par la suite, enfin moi c'est ce que j'avais écouté. Si vous avez l'album de Deux Balles de Neige, il y a un moment, il y a tout un morceau où il se moque du Dynastyle. C'est assez, assez drôle sur une interlude où ils reprennent leur phrasé, comment ils rappaient. Et donc, c'était le début. Et donc, en même temps que ça, il y a les Zoulous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, si on était un Zoulou, on était quelqu'un. Sauf que les Zoulous, c'est devenu n'importe quoi dans la presse. Notamment donc François, la vérité sur les Zoulous du RER. Il y a carrément des gangs de Zoulous, mais des gangs à l'américaine, hein, ils font la carte. Donc là, on ne voit pas très bien, mais
Il y a par exemple les Little MC. Les Little MC, c'est Sully Biwak, c'est deux potes à lui, donc ils se sont retrouvés comme un groupe, comme une bande. NTM, mais pareil, on pensait que c'était des bandes. Et donc là-dedans, il y a des noms de groupes de rap. Et ils les font passer pour des bandes de truands. Et en fait, derrière, on peut voir surtout une espèce, une forme un peu de racisme où on a toujours peur que des hordes de noirs ou de maghrébins viennent manger les enfants dans le centre de Paris. Donc c'est exactement ça. J'avais trouvé d'autres coupures de journaux où il décrivait les Zoulous comme une organisation paramilitaire. Toujours avec ce genre de carte, voilà, ils sont 2000 à se partager Paris. Enfin, c'était un petit peu le grand n'importe quoi. Mais la Zulu Nation était très important d'être Zulu King, notamment. C'était assez important. Il y en avait qui devenaient Zulu King en rappant, en dansant, en graffant. Et un moment fondateur également, c'est le Globo. Alors, vous voyez l'état des flyers que j'ai retrouvé chez Roger Bois de Funk. Où notamment il y a eu un concours de rap très important sur plusieurs semaines, et surtout il y a Public Enemy qui est venu c'était pas Public Enemy au Zénith là, c'était Public Enemy au Globo, donc c'était le concert pack de sardines, tout le monde était dans la salle très très serré. Je vous montrerai plus tard, il y a un livre où on voit les photos. Et ils venaient pour écouter ça. Et alors, quand ils écoutaient ça, ils devenaient fous parce que la qualité du rap français était encore un petit peu à désirer. Ah.
Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
Yes! The rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body should be part of it too. Pass the power on the hour from the rebel to you.
Hey, yo, Chuck, man.
Never play me all the mix. They just okay me now, knowing it grown. When the clock in my zone is known, sneaking and taking everything that the brother owns. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chess and Mart, loud and proud, kicking live. Next poet supreme.
Donc voilà, et enfin le côté français. Donc quand ils entendent ça, ils repartent tous revoir leur copie. Et arrive en fait la première compilation de rap français avec différents morceaux, dont notamment le morceau d'Assassin qui a beaucoup marqué. Et donc là, on est maintenant, on travaille sur du sample. Les boîtes à rythme sont définitivement abandonnées. IAM est passé par là aussi.
Meurtrier à souhait au cœur d'assassin. C'est encore lui et pour vous il revient.
Oui, je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Ma poésie fuse et mes rimes matraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18ème, je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'impérial est là pour te faire danser.
D'accord.
Le plus hardcore de toute la partie nord. Passer repasse, puis s'évapore. Donc écoute-le, prête à attention, absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux. Car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Je rentre dans ton esprit, puis j'en ressors, puis j'y reviens. Je boule tes cellules, pour moi c'est enfantin. Pourquoi? Car j'ai la formule secrète. Hey yo yo yo, chimique était ma potion funky solo mec. Car je détiens la formule secrète du style qui se refait.
Donc là, on a toute la compilation. Donc moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai connu le... J'avais 10 ans quand est sortie la compilation Rap Attitude. Et à partir de ce moment-là, toutes les majors vont s'arracher leur propre rappeur. Et il va même y avoir un début de rivalité entre IAM et NTM. Et c'est plus une incompréhension. Mais je vais vous laisser juger. Vous allez voir l'objet du délit. Donc on a IAM qui sort ça, que Joystar est allé chercher à Marseille.
Aye, aye.
It's the funky B-side.
Straight out of France.
Especially.
This is the B-side.
Straight out.
Marseille.
Once again, on the B-side.
Akhenaton.
Cheops.
Say France, chill, fill in our app.
Get busy, y'all.
Know what I mean?
Je vais du nord pour les boîtes, ne sachant pas le réveil sera dur, mais c'est 90, alors fait.
On a ça. Quelques mois après, on a ça. Donc j'ai demandé à Coolchen s'ils avaient pompé IAM. Il m'a dit non, je te jure que non. On avait déjà trouvé le son pour DJS, c'est lui qui l'a mis, etc. Donc moi, je le crois. Hein, mais bon, c'est quand même assez troublant et ça a énervé IAM qui avait sorti son premier album comme ça avec ce sample de Marvin Gaye, donc T-Stands for Trouble, qui a été un morceau. Et voilà, et là on arrive à la fin d'une contre-culture. Alors, c'est la fin d'une contre-culture parce que, et si vous remarquez, le dessin était fait par la même personne que la BD que je vous ai montrée tout à l'heure, Funk Philips. Et donc, on a la fin d'une contre-culture parce qu'au niveau des majors, tout le monde a son rappeur. Au niveau de la danse contemporaine commence en 90 à s'intéresser aux danseurs, aux breakers. Au niveau du graphe, on a les premières expositions de graphe français en 90 par Agnès B. Et au Palais de Chaillot. Et donc là, on a les majors qui relancent. En plus, c'est aussi l'année, je vous ai pas mis, mais c'est l'année où il y a Benny B aussi. C'est la même année où on a... Vous connaissez tous. Et d'ailleurs, ce morceau-là, c'était pas donné que ce soit un hit. Ça s'est passé dans un Ciel Montmardi spécial rap où on leur demandait, donc à vous alors les rappeurs, vous êtes violents, vous êtes méchants, etc. Donc ils étaient là en train de se défendre, et à la fin donc c'est MC Solar qui fait pour fermer l'émission Bouge de là, et à partir de là il en a vendu des millions, enfin il y en a de disques, notamment sur ce single. Agnès B, elle aimait beaucoup les graffeurs. Elle avait une boutique qui n'était pas très loin du terrain vague de La Chapelle. Et elle avait son c'était pas son mari, mais son compagnon de l'époque était photographe. Et il allait souvent prendre en photo les graphes qu'il y avait au terrain vague. Il les ramenait et elle trouvait ça très beau. Surtout qu'elle s'intéressait aussi aux graphes américains. Elle avait déjà exposé du graphe américain. Et c'est elle la première à laisser sa galerie pour des graffeurs français. Mais en tout cas, oui, ça fait partie un peu des mécènes comme Paco Rabanne. Et donc voilà, où on en est arrivé. Donc maintenant, on ne parle même plus de contre-culture, de sous-culture. Maintenant, on est dans une culture de masse. Mais tout ça ne repose pas sur rien du tout. C'est-à-dire que généralement, dans les bouquins, ils vous font naître le rap à partir de Rap Attitude, alors qu'il y a 10 années de gestation qui précèdent. Et donc, quelques références. Donc, il y a quelques bouquins, notamment pour le graphe, celui-là qui est Descente Interdite, qui est intéressant. Vous reconnaissez le petit Stomy quand il était tout jeune. C'était au concert de Public Enemy, ça. Et après, il y a Can't Stop, Won't Stop, c'est le livre dont j'ai pompé le mode narratif, où c'est des histoires assez courtes avec des recueils d'interviews, parce que voilà, le bouquin donc, que j'ai réalisé au bout de 3 ans. Alors, comme je disais, c'est toujours les mêmes qui gagnent, parce que au début, ça devait être la couverture, ça devait être le 93 NTM, c'était un groupe de Tiger, c'était pas des chanteurs. Là, ils ont jamais rappé, là, on est au Globo. Donc, on reconnaît Joystar, Cool Chain. Là, c'est Solo d'Assassin, ça, c'est Colt et DI, c'est des graffeurs. Et malheureusement, il y en a, on avait acheté la photo et il y en a un qui a refusé d'être sur la couverture du livre. Donc, on avait déjà acheté la photo, on a dû couper en deux et Solo était très triste parce qu'il voulait être sur la couverture. Et comme je dis, c'est toujours les mêmes qui gagnent parce que c'est Cool Chain. Mais d'un autre côté, je regagne un petit peu derrière parce que ce qui est intéressant, c'est Regarde ta jeunesse dans les yeux, le titre du livre, qui est les paroles du monde de demain. Et Cool Chain vous regarde un petit peu et c'est ses paroles, donc il y a un peu une mise en abîme si on fait un petit peu une petite complicité. Voilà, il y a son regard et Regarde ta jeunesse dans les yeux. Donc voilà, si vous avez des questions.